Chapitre 4. Libby entend les échos de tous les moments que cette pièce a vécu, sent le souffle de chacune des personnes qui l'ont précédée dans ce fauteuil. 1799, lui répond Maître Royle. Il s'agit de l'une des plus anciennes études de la capitale. Maître Royle l'observe, assis de l'autre côté de son bureau bien ciré, un léger sourire au coin des lèvres. Quel cadeau d'anniversaire ! Elle lui sourit.
Je n'arrive toujours pas à y croire, confie-t-elle d'une voix nerveuse. J'ai l'impression que quelqu'un va arriver pour me dire que c'est une grosse blague.
Ce choix de mots, une grosse blague, ne convient pas à ce respectable décor. Elle aurait voulu utiliser une autre expression, mais Maître Royle n'est pas décontenancé. Il se penche vers Libby en lui tendant une pile de documents.
Je peux vous assurer que nous ne faisons pas de blagues ici, Mademoiselle Jones.
Il retire une feuille de la pile.
Je ne savais pas si je devais vous donner cela maintenant. Peut-être aurais-je dû vous l'envoyer avec mon courrier. Je n'en sais rien. Cette situation est pour le moins inhabituelle. Cet article de journal faisait partie du dossier, mais j'ai préféré le garder au cas où, en vous rencontrant, il m'aurait semblé inopportun de vous en faire part. Je crois que vous devriez l'avoir en votre possession. Prenez-le. J'ignore ce que vos parents adoptifs vous ont révélé au sujet de votre famille biologique. Vous devriez, je pense, prendre le temps de lire ceci.
Libby déplie l'article et le pose sur le bureau.
Suicide d'un couple de riches londoniens. Leurs enfants disparus, un bébé retrouvé sur les lieux du drame. Suite à un appel anonyme, la police s'est rendue hier en fin de matinée à Chelsea, chez Martina et Henry Lamb, pour enquêter sur un possible triple suicide. En arrivant, les policiers ont découvert les cadavres de Monsieur et Madame Lamb sur le sol de la cuisine, à côté du corps d'un autre homme qui n'a pas encore été identifié. Une petite fille, probablement âgée de 10 mois, se trouvait également dans la maison, au premier étage. Elle est en bonne santé. Selon les voisins, plusieurs enfants et adultes ont vécu dans la maison ces dernières années, mais aucun autre résident n'a été retrouvé. La cause de ces décès doit être confirmée par de plus amples examens médicaux, mais les premiers résultats favorisent la piste d'un empoisonnement. Henry Lamb, 48 ans, était le seul héritier de la fortune de son père, Harry Lamb. Il était malade depuis plusieurs années et se déplaçait en fauteuil roulant. La police a lancé un avis de recherche pour les deux enfants du couple, une fille et un garçon, âgés respectivement de 14 et 16 ans. Toute personne susceptible d'avoir des informations permettant de les retrouver est priée de contacter la police immédiatement. Toute personne ayant vécu dans la maison des Lamb ces dernières années est également invitée à se manifester.
Libby lève les yeux vers Maître Royle.
Ce bébé abandonné, c'est moi ?
Il acquiesce.
En effet, confirme-t-il avec une émotion sincère. C'est une histoire tragique et particulièrement mystérieuse. Vous savez, ces deux enfants... Nous avons gardé la maison pour eux, bien entendu, mais ni l'un ni l'autre ne s'est présenté. Alors il faut bien s'imaginer qu'ils sont... Enfin, vous voyez.
Il se penche en avant, resserre son nœud de cravate et s'efforce de sourire.
Puis-je vous proposer de quoi écrire ? Il lui tend un pot en bois rempli de stylos de luxe et elle en prend un. Le nom de l'étude est imprimé sur le côté en lettres d'or.
Libby contemple cet objet pendant un moment.
Un frère, une sœur, un suicide collectif.
Elle secoue la tête très doucement, à peine, puis se racle la gorge.
Merci.
Ses doigts tiennent fermement le stylo.
Elle n'arrive plus à se souvenir de sa signature.
De petites flèches autocollantes sont placées au bord des pages pour lui désigner les endroits où signer. Le crissement de la pointe du stylo contre le papier lui paraît insoutenable. Maître Royle la regarde d'un air bienveillant. Il pousse la tasse de thé posée sur son bureau de quelques centimètres, puis la ramène vers lui. Tout en signant, elle prend la mesure de l'importance de ce moment, de ce tournant imprévu dans le cours de sa vie qui la plonge dans l'inconnu. En haut de ces pages agrafées, il y a les courses chez Lidl, une semaine de vacances par an et une voiture affichant plusieurs centaines de milliers de kilomètres au compteur. sous la pile, il y a les clés d'une vaste demeure à Chelsea.
« Parfait !» annonce-t-il avec soulagement quand Libby lui tend les documents signés.
« C'est très bien. » Il les feuillette, vérifie que toutes les signatures sont bien à leur place, puis redresse la tête.
« Le moment est venu de vous remettre les clés. »
Il lui tend la petite enveloppe blanche qu'il a sortie d'un tiroir de son bureau, sur laquelle figure l'inscription « 16 Chain Walk ».
Libby l'ouvre.
Il y a trois jeux de clés. Le premier est attaché à un insigne jaguar, le deuxième à un anneau de cuivre et à un briquet, le dernier n'a pas de porte-clés.
Il se lève.
« Suivez-moi, c'est juste au coin de la rue. » Dehors, il fait une chaleur écrasante. Libby sent la température des pavés se propager dans la semelle de ses espadrilles. L'éclat vif du soleil brûle le voile fin des nuages. Il remonte une rue bordée de restaurants, leurs tables parfaitement dressées placées sur des terrasses surélevées à l'abri de grands parasols rectangulaires. Des femmes aux lunettes de soleil surdimensionnées sont assises par groupes de deux ou trois et sirotent des verres de vin. Certaines sont aussi jeunes que Libby, qui se demandent pourquoi elles ne sont pas au travail et comment elles peuvent se permettre de passer leur lundi après-midi à picoler dans des restaurants chics.
Votre nouveau quartier, si vous décidez d'emménager ici.
Elle secoue la tête et un petit rire nerveux lui échappe. Elle ne sait pas quoi répondre, tant cette idée lui paraît ridicule. Il longe de minuscules boutiques, des magasins d'antiquaires exposant des sculptures en bronze de renards et d'ours, ou des lustres étincelants plus larges que sa baignoire. Ils approchent du fleuve. Libby ne le voit pas encore, mais elle en reconnaît les effluves puissants de chiens mouillés. De longs bateaux dérivent les uns à côté des autres, un petit voilier et ses riches passagers les dépassent, une bouteille de champagne au frais dans un seau en argent sur le pont, un labrador à la proue prenant le vent et le soleil.
On y est presque, encore une ou deux minutes.
Les cuisses de Libby la démangent. Elle regrette d'avoir mis une jupe au lieu d'un short. Elle sent la sueur qui se forme entre ses seins être absorbée par son soutien-gorge. Elle voit bien que la chaleur est tout aussi insupportable pour Maître Royle, qui porte une chemise et un costume près du corps.
« Et voilà » annonce-t-il en désignant une rangée de cinq ou six maisons de briques rouges, toutes de hauteur et de largeur différentes.
Libby sait immédiatement laquelle est la sienne, avant même de voir le numéro 16 peint sur le vasistas dans une typographie arrondie. Il y a trois étages et quatre fenêtres à chaque niveau. Elle semble magnifique, mais, comme on pouvait s'y attendre, elle est condamnée. Les cheminées et les gouttières sont envahies par les mauvaises herbes. Cette propriété est dans un état pitoyable, mais elle conserve un charme certain.
« Elle est immense !»
commente Libby après une profonde inspiration.
« En effet, il y a 12 pièces, sans compter le sous-sol. »
La maison se situe à l'égard du trottoir, derrière une clôture en métal sculpté et un jardin en friche. Une avancée en fer forgé guide les visiteurs jusqu'à la porte d'entrée, et sur la gauche, Libby remarque un canon posé sur un bloc de ciment.
« Vous êtes prête ?»
demande-t-il en désignant le cadenas qui enserre les planches de bois dressées devant la porte.
Libby acquiesce.
Maître Royle actionne le verrou, et le panneau s'ouvre dans un grincement épouvantable, révélant une immense porte noire. Le notaire cherche la bonne clé dans son trousseau.
« Quand est-on entré dans cette maison pour la dernière fois ?»«
Oh, ça ne date pas d'hier. Il y a eu une fuite il y a quelques années. Nous avons dû faire appel à un plombier en urgence, effectuer quelques réparations. J'imagine que c'était à ce moment-là. »«
Voilà, c'est ouvert. »
Ils entrent et arrivent dans le vestibule. Quand la porte se referme, la chaleur du dehors, le bruit de la circulation, l'odeur de la rivière disparaissent. Il fait frais. Un parquet foncé, poussiéreux et rayé s'étend sous leurs pieds. Devant eux s'élève un grand escalier obscur, avec un poteau orné d'une corbeille de fruits sculptés et une rampe faite de barreaux torsadés. Les portes en bois sont décorées de moulures, de drapés, et leurs poignées sont en bronze ouvragé. Un lambris sombre recouvre la moitié inférieure des murs, et la partie supérieure est couverte d'un papier peint floré bordeaux, trouée par les mites à plusieurs endroits. L'air est dense, saturé de particules de poussière. La seule lumière qui entre dans la bâtisse provient des vasistas au-dessus des portes. Libby frissonne. Il y a trop de bois, pas assez de lumière ni d'air. Elle a l'impression d'être dans un cercueil.
« Je peux ?»
demande-t-elle en posant sa main sur une poignée.
« Bien entendu, vous êtes chez vous. »
La porte s'ouvre sur une vaste pièce rectangulaire qui longe le versant arrière de la maison. Elle aussi est trouée de quatre fenêtres et donne sur un grand enchevêtrement d'arbres et de buissons. Là encore, du lambris, des volets en bois, du parquet.
Cette porte mène où ?
Elle désigne une petite ouverture dissimulée dans le mur. C'est la porte de l'escalier de service. Il conduit directement aux chambres de bonne du grenier. Il y a une autre porte dérobée qui permet d'accéder au premier étage. C'est typique de ces vieilles demeures, les cages à lapins.
Ils explorent toute la maison, pièce par pièce, étage après étage. Où sont passés les meubles, les affaires de la famille ?
Disparus, depuis bien longtemps. Pour éviter la faillite, ils ont tout vendu, petit à petit. À la fin, ils dormaient sur des matelas posés à même le sol. Ils cousaient leurs propres vêtements.
Alors ils étaient pauvres ?
Oui, on pourrait dire ça. Libby hoche la tête. Elle ne s'est jamais figurée que sa famille biologique ait pu être pauvre. Elle s'était évidemment inventé des parents imaginaires, même les enfants qui ne sont pas adoptés le font. Les siens étaient de jeunes gens à la mode qui vivaient dans une maison surplombant le fleuve. Cette maison avait deux façades entièrement vitrées et une terrasse filante. Ils avaient deux petites chiennes, avec des colliers en diamant. Sa mère était attachée de presse dans la mode, son père graphiste. Quand elle était bébé, ils sortaient prendre le petit déjeuner ensemble et l'installaient dans la chaise haute, lui donnaient à manger de petits morceaux de brioche, tout en se faisant du pied sous la table, là où les deux chiennes somnolaient l'une à côté de l'autre. Ils étaient morts dans un accident de la route en rentrant d'une soirée, probablement à bord d'une voiture de sport.
Est-ce qu'il y avait autre chose dans la maison, à part la lettre d'adieu ?
Maître Royle secoue la tête. Selon le rapport officiel, non. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact. Quand on vous a trouvé, il y avait quelque chose dans votre berceau. Je crois que c'est toujours là, dans la nurserie. C'est par ici. Elle le suit jusqu'à une grande pièce située au premier étage, où deux fenêtres à guillotine donnent sur le fleuve. L'air est irrespirable. Les coins du plafond haut sont tapissés de toiles d'araignées et de poussière. Dans le mur en face d'eux, il y a un passage qu'ils empruntent. Ils pénètrent dans un petit dressing avec des étagères et des placards blancs sur trois des murs ornés de moulures. Au centre se dresse un berceau.
C'est...
Oui. C'est ici qu'on vous a trouvé, toute gazouillante à ce qu'il paraît. C'est un modèle à balancelle avec des manettes en acier pour actionner le mécanisme, couleur crème, décoré de quelques roses bleu pâle. Il y a un petit encart en métal à l'avant, avec le logo Harrods. Maître Royle attrape une petite boîte posée sur l'étagère couvrant le mur du fond. Voilà. On a retrouvé ça avec vous, sous les couvertures. On s'est dit, la police, comme moi et mes collègues, que ça avait été laissé là, à votre intention. La police l'a conservé comme pièce à conviction pendant de longues années, puis nous l'a restitué quand l'enquête a été classée sans suite.
Qu'est-ce que c'est ?
Ouvrez, vous allez voir. Elle attrape la boîte en carton qu'il lui tend et l'ouvre. Elle est remplie de morceaux de journaux découpés. En y plongeant, sa main rencontre quelque chose de ferme et doux. Elle sort l'objet de la boîte et le tient entre ses doigts. C'est une patte de lapin, attachée à une chaîne dorée. Libby a un mouvement de recul et le pendentif tombe au sol. Elle se baisse pour le ramasser. Ses doigts se posent à nouveau sur la patte de lapin, sur la froideur mortifère du poil soyeux, sur les pointes acérées des griffes. De l'autre main, elle touche la chaîne. Une semaine auparavant, Libby ne pensait qu'à ses nouvelles sandales, à cet enterrement de vie de jeune fille à Barcelone, à ses fins de mois difficiles, aux plantes à arroser. Désormais, son esprit est envahi d'images de gens dormant sur des matelas, de lapins morts et de cette grande maison terrifiante complètement vide, à l'exception du berceau Harrod avec ses roses pâles peintes sur les côtés. Elle range la patte dans la boîte qu'elle garde à la main, mal à l'aise. Elle pose l'autre main sur le matelas du berceau, cherchant l'écho de son petit corps endormi, le fantôme de la personne qu'il y avait déposée, qui l'avait bordé bien au chaud avec cet étrange talisman, mais elle ne sent rien, à part un lit vide et une odeur de renfermé.
« Comment je m'appelais ? Vous le savez ?»«
Oui. Votre nom était écrit dans la lettre d'adieu. C'était Serenity. »«
Serenity ?
Oui. C'est joli, n'est-ce pas ? Pas commun, mais joli. » Soudain, Libby a du mal à respirer. Elle voudrait sortir en courant de cette pièce, mais elle ne veut pas faire de scène.
« Est-ce qu'on pourrait aller voir le jardin maintenant, s'il vous plaît ? Un peu d'air frais me ferait du bien. »